Donc, tu es chercheuse au CNRS, au Centre Monde Américain. Tu es aussi membre du CIRESC, Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavage. Tu es au sein du CIRESC la co-rédactrice en chef de la revue Esclavage et post-esclavage, qui vient de publier son numéro 3, si je ne me trompe pas. Et tes recherches portent sur le travail forcé et l'engagisme aux Antilles françaises dans la période post-esclavagiste. Et tu es l'autrice d'un ouvrage qui a été remarqué, qui porte le titre de L'esclavage à la liberté forcée, histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle. Tu as permis avec cet ouvrage de nous faire accéder à une expérience méconnue de la traversée atlantique de ces femmes et de ces hommes africains, travailleurs dits sous contrat, et au terme d'une traversée établie sur les traces de la traite transatlantique. Et tu as récemment orienté tes recherches en croisant archives et récits véhiculés dans les familles des descendants des engagés. C'est ce sur quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Et je rajouterai que pour avoir partagé avec toi l'expérience d'un programme, je garde en mémoire tes interrogations et tes interrogations touchantes sur cette déstabilisation qu'amène le témoignage oral dans l'archive que tu as l'habitude de consulter et à partir de laquelle tu as l'habitude de travailler. Et sur ce statut que tu n'as cessé, la question du statut que tu n'as cessé de te poser entre ce témoignage oral et quelle crédibilité tu en étais. C'était touchant de voir comment tu t'interrogeais sur ce statut différentiel entre cette archive facilement, comment dirais-je, interprétable, plus facilement interprétable que ce témoignage oral. Donc, tu as été confrontée à la problématique des anthropologues, en fait, au cours de cette recherche. Je te laisse la parole.
Eh ben, je vais commencer par vous remercier, enfin, notamment Christine Chivalon qui m'a invitée, mais aussi Didier Nativelle et Nora Philippe donc, pour l'organisation de cette journée et de m'avoir proposé de venir travailler justement, enfin présenter ce travail. Donc en préambule de mon intervention, je vais donner quelques points de repère concernant l'histoire de l'engagisme africain à la Martinique, car je ne suis pas sûre que tout le monde soit familier de cette migration. Donc en 1852, 4 ans après l'abolition de l'esclavage décrétée le 27 avril 1848, le gouvernement français, en accord avec les autorités coloniales locales et les grands propriétaires terriens, opte pour l'introduction en nombre au sein de l'ensemble de ces colonies maintenant post-esclavagistes de travailleurs munis de contrats d'engagement de plusieurs années. Et c'est dans ce cadre que de 1857 à 1862, plus de 10 500 hommes, femmes et enfants sont recrutés le long du littoral ouest africain pour aller travailler en Martinique. À leur arrivée en colonie, ils deviennent des, je cite, immigrants et sont soumis comme tels à la juridiction ayant trait à ce statut. Alors, durant leurs 10 ans d'engagement, leur employeur leur doit la nourriture, le logement, le vêtement, les soins et un faible salaire. En échange, ils fournissent leur force de travail aux activités qui leur sont affectées, quelles qu'elles soient. Et très généralement, enfin, pour la Martinique et la Guadeloupe, celle de l'exploitation de la canne à sucre. Donc leur contrat d'engagement est insécable pendant enfin, tous ces 10 ans. Bien qu'ils puissent théoriquement être rapatriés à la fin de leur contrat, leur migration s'avère définitive pour la quasi-totalité d'entre eux qui finiront leur vie en Martinique. Alors, c'est dans le cadre du programme de recherche ALTER, qu'évoquait Christine, donc, qui portait sur les histoires orales alternatives dans la Caraïbe du 19e au 21e siècle, que je suis partie en quête de souvenirs et de récits concernant ces, pour être très précis, 10 552 personnes et leur expérience migratoire, notamment au sein de mémoires familiales et ou aussi parfois des mémoires individuelles. Autrement dit, auprès de descendants, Alors, je désigne par ce terme de descendant que je mets en écrit, enfin à l'écrit entre guillemets, toute personne ayant dans sa généalogie un ou plusieurs immigrants africains, mais cela ne définit pas un groupe social existant. D'ailleurs, ces descendants ont eu connaissance de cette ascendance de façon très diverse et avec des temporalités très différentes. Alors, j'ajouterai qu'il est impossible d'évaluer le nombre de familles qui ont actuellement au moins un aïeux immigrant africain ayant des histoires orales se rapportant à lui ou à cette migration. Donc, mon étude ne vise pas du tout à l'exhaustivité. Alors, en croisant sources orales et sources écrites, il s'agissait tout à la fois pour moi de comprendre leur insertion au sein de la société martiniquaise, en retraçant notamment des parcours transgénérationnels de lignées d'immigrants, si on peut dire, et d'appréhender quels souvenirs restaient-ils et quelle histoire se raconte sur cette migration transatlantique, sur l'expérience de langagisme et sur leurs aïeux africains. Alors, forte de ma longue recherche doctorale sur langagisme africain, je m'attendais à trouver dans les mémoires familiales des éléments sur ce système de langagisme, système donc qui avait défini le statut juridique de leurs aïeux à vie, mais aussi les conditions de vie et de travail pour ces aïeux de nombreuses années, pendant de nombreuses années. Et ma surprise fut grande de ne pas en trouver trace. En effet, ce ne sont pas des engagés africains que j'ai rencontrés dans les mémoires, mais des Africains. Je vais tout d'abord vous présenter ma démarche dans laquelle archives écrites et histoire orale familiale n'ont cessé de s'entremêler de multiples manières. Et ensuite, je reviendrai sur cette absence d'engagés au sein des récits. Alors, pour identifier des familles de descendants, mon parti pris de départ était de ne solliciter que des personnes qui savaient avoir des ascendants immigrants africains. À travers les archives, en particulier les registres d'état civil que je dépouille, je suis en mesure en fait, d'identifier des descendants, puisque j'arrive à retracer des lignées, mais en les contactant, j'aurais eu l'impression en fait, de leur assigner une ascendance, voire de la leur créer. Alors, plusieurs voies se sont proposées, mais que ce soit pour la rencontre de, comme on dit en anthropologie, de personnes ressources ou avec des descendants directement, en fait, les interventions sur l'histoire de langagisme africain que j'ai données, que ce soit dans le cadre de l'université, aux archives départementales, maintenant territoriales, ou au sein de clubs de généalogie ou encore d'associations culturelles et artistiques, plus généralement, en fait, la médiatisation de mon travail doctoral et notamment à travers la sortie de mon livre qu'a évoqué Christine, ont été essentielles. En toute logique, viennent à mes interventions des personnes qui sont intéressées par le sujet pour de multiples raisons et l'une d'entre elles est parfois qu'ils savent avoir des aïeux immigrants. Et ces interventions me permettent en fait une première approche non individualisée où ces personnes peuvent se faire une opinion de mon travail, de mes propos et aussi de ma personne. Et ils sont ainsi libres de venir me parler, d'échanger à la fin de l'intervention. Et ces échanges ont souvent mené à une discussion qui me permettait de solliciter un entretien avec eux. Autre point que je voudrais mentionner, les premiers informateurs que j'ai rencontrés pour chaque famille avec qui j'ai travaillé étaient généralement des personnes dans la cinquantaine et qui étaient en fait très souvent engagées dans des recherches généalogiques sur leur famille toutes branches confondues. Et c'est suite en fait à une première rencontre avec eux qu'ils m'ont proposé de me présenter d'autres membres de leur famille, des générations précédentes, plus à même selon eux de connaître l'histoire familiale et de pouvoir m'aider. Alors, le fait que plusieurs de ces personnes soient engagées dans des recherches généalogiques sur leur famille et l'histoire de celle-ci a influencé en fait la manière de rentrer en relation et de conduire les entretiens tout au moins au début. De fait, sachant l'intérêt de mes interlocuteurs pour leur généalogie, j'arrivais toujours à un entretien avec les informations que j'avais pu reconstituer donc dans les archives écrites, par exemple des dates de naissance, de décès, des extraits de baptême, de mariages religieux. Et nombre de ces derniers qui avaient aussi en général fait des recherches arrivaient aussi avec leurs propres données. Donc généralement, les entretiens commençaient toujours par une sorte de travail généalogique commun sur les lignées familiales issues d'un et ou d'une immigrante africaine. Alors moi, j'avais principalement des données sur le 19e siècle et le début du 20e siècle, et eux plutôt sur le 21e siècle, et le XXe siècle. Donc, c'était en fait l'occasion d'une mise en commun de données et d'un véritable échange de connaissances et d'informations qui se complétaient, se corrigeaient et parfois se confrontaient. Et cela me donnait aussi un support pour discuter de tous les membres de la famille évoqués, depuis les primo-migrants jusqu'à mes interlocuteurs. Alors, à de nombreuses reprises, au cours de ces entretiens, sans en demande de ma part, les personnes préparaient en fait l'entretien en amenant des documents qui se rapportaient à leurs aïeux. Notamment, le type de document qui revient le plus, ce sont des photographies, donc de leurs aïeux, les plus anciennes, des plus anciennes ou plus récentes qu'ils avaient, mais aussi m'ont été souvent montrés des livrets de famille, des cartes d'identité datant des années 40, 50, des extraits d'état civil et aussi parfois des actes de retranscription d'hypothèques d'acquisition de terrain qui sont dans la famille depuis longtemps. Alors, le recours à l'histoire orale, qui, comme l'a dit Christine, moi, c'était la première fois, enfin, dans le cadre de ces recherches que je faisais des entretiens, enfin, c'est pas vrai, j'en avais fait pour le DEA, mais c'est dans un autre contexte. Mais en tout cas, par rapport à cette histoire-là, je travaille surtout sur les archives écrites pour le 19e. Et en fait, le recours à l'histoire orale, là, m'a vraiment apporté des éclairages précieux dans trois domaines particulièrement importants pour mes recherches. Alors, premièrement, elles m'ont permis l'identification de parenté qui échappent à l'enregistrement à l'état civil. Par exemple, l'identification des pères qui n'ont pas reconnu officiellement leurs enfants. Et les informateurs me donnaient ainsi des éléments très précieux sur ce qu'ils peuvent appeler, je cite, les différents lits d'un des membres de leur généalogie. Et cela, du coup, donne à voir des réseaux de sociabilité beaucoup plus étendus que ce qu'on peut voir à travers les archives écrites. Deuxièmement, mes informateurs m'ont fait découvrir la pratique courante d'attribuer un autre prénom que celui déclaré à l'état civil. Autre prénom qui est le plus utilisé. Et en fait, il y a eu des situations où il y a vraiment eu une relecture de certaines sources écrites a été faite en fait avec mes informateurs qui me révélaient par exemple que deux personnes aux prénoms différents, par exemple l'un dans l'état civil, l'autre dans les recensements, étaient une seule et même personne. Parce que moi, évidemment, je pensais que c'était deux personnes différentes. Et alors, les documents administratifs font parfois mention de cette pratique avec les dits ou surnommés. Ça, on le retrouve très fréquemment. Et même dans les registres d'hypothèques, on retrouve la formule appelée en famille. Donc, des fois, on a jusqu'à trois prénoms qui sont notés dans les archives écrites, mais cela n'est jamais systématique. Et troisièmement, je trouve que c'est important, les récits complexifient les catégories de travail qui sont vraiment laminaires dans les archives. Par exemple, la catégorie de cultivateur, notamment, que je retrouve énormément pour le second 19e siècle et début du 20e siècle. La plupart des immigrants et immigrantes africaines sur qui je travaille sont souvent classés, dénommés comme cultivateurs. Et en fait, ça recouvre qu'une petite partie des activités de la personne. Et nombre des acteurs, en fait, ont de multiples activités et plusieurs sources de revenus. Et par exemple, dans une des familles avec qui je travaillais, qui m'ont parlé d'un de leurs aïeux, que je retrouve en fait moi dans les archives toujours sur ce métier de cultivateur, et en fait ils m'ont décrit la vie de cette personne qui avait certes, qui était propriétaire d'un terrain, d'où sûrement le fait qu'il était appelé cultivateur, mais qui avait fait en fait plein d'autres métiers, et notamment qui travaillait à la construction de routes, et qui était en fait chef de chantier, qui constituait des équipes d'hommes et de femmes, qui faisait travailler sur des chantiers. Et ça, c'est un indice qui était très important, qui revenait beaucoup dans les entretiens. Il était appelé patron. Et on voyait aussi, enfin, dans ces entretiens, je pouvais saisir toute l'importance de cette personne dans la commune où elle était, qui faisait travailler de nombreuses personnes. Et évidemment, tout ceci n'est absolument pas présent dans les archives écrites, où je le trouve juste sous ce terme de cultivateur. De même, la pratique du coup de main, qui est très présente dans les récits oraux, mais complètement absente des archives, et c'est une pratique qui me semble extrêmement commune, en tout cas au XIXe siècle, mais même je pense jusqu'à aujourd'hui, aux Antilles. Ainsi, les récits oraux que j'ai pu récolter ouvrent vraiment à des domaines invisibles dans les archives et donnent une autre dimension aux rapports sociaux, en apportant une vision beaucoup plus dynamique de la société, mais aussi des parcours de vie. Par ailleurs, la confrontation archives écrites et récits oraux amène des indices qui, pour moi, ont été très intéressants sur la construction de la mémoire familiale ou sur celle de certains personnages. Par exemple, un de mes informateurs dit de son aïeul immigrant africain, alors qu'il a connu, c'est un élément important, il était âgé de 12 ans au décès de ce dernier, qui a vécu centenaire, et ses premiers souvenirs remontent à ses 5-6 ans, donc ça correspond aux années, entre les années 1933 à 1940. Et il me dit que ce dernier était seul, il me le décrit comme ça à plusieurs reprises, sans amis, et qu'il n'avait pas un sou, je cite, « il n'avait rien, rien du tout ». Ainsi, lorsque ce dernier évoque le terrain qui a été transmis par cet aïeux à sa petite fille, et c'est un terrain qui est toujours dans la famille et qui est porteur d'une grande charge, enfin d'une charge symbolique importante, il raconte que ce terrain lui a été donné par son patron. Et j'ai eu plusieurs entretiens avec lui. Des fois, il n'emploie pas le terme patron, mais le terme de par son maître. Et dans les registres d'hypothèques, j'ai au contraire trouvé que cet aïeux avait acheté en 1894 ce terrain d'un peu plus d'un hectare. Par ailleurs, dans les registres paroissiaux et ceux de l'état civil, j'ai pu constater que cet aïeul était témoin d'un mariage en 1880 de deux immigrants africains, qu'il a été plusieurs fois parrain, notamment deux fois en 1898, d'enfants de descendants d'immigrants africains. Donc, moi, par les archives, ce n'est pas du tout un individu qui me semble isolé, sans relations sociales et sans le sou, bien au contraire. Mais mon informateur, en fait, il l'a côtoyé plus de 40 ans après ces éléments que moi, je trouve dans les archives, au moment où ce dernier est âgé de plus de 90 ans, qui est à l'hospice et qui n'est donc plus du tout dans une sociabilité, en fait. Et ses souvenirs, donc là, on se rend compte que les souvenirs et sa mémoire de mon informateur a été construite par rapport à une sorte de moment T, une période précise, celle où il l'a connu et côtoyé. Et il me relate que des anecdotes qu'il a vraiment, lui, vécues avec son arrière-arrière-grand-père, en fait. Donc, on peut supposer que cet informateur n'a pas forcément transmis un récit sur l'ensemble de sa vie. Et que ce dernier n'a pas forcément raconté tout ce qu'il a vécu. Et du coup, je trouve que c'était intéressant de voir que moi, par rapport, enfin, de ce que je reconstituais par rapport aux archives écrites, je voyais plutôt un individu qui avait eu une vie, au contraire, importante dans l'espace social où il était, qui est très, enfin, fréquemment présent, notamment au mariage, dans le baptême des enfants, qui avait acheté un terrain. Enfin, voilà. Et alors que dans les récits oraux que j'ai pu récolter sur lui, j'avais tout à fait une autre vision, mais qui correspond en fait à l'état, à la sociabilité de cet individu quand mes interlocuteurs l'ont rencontré. Et je voulais revenir, parce que j'ai tiqué par rapport à l'introduction de Christine, et justement sur mes interrogations d'historienne allant un peu sur le terrain de l'anthropologie, quand j'ai trouvé, en fait, c'est pendant un de mes séjours où je faisais des entretiens que je dépouillais les registres d'hypothèques, puisque je travaille sur l'accès à la terre de ces immigrants africains, et où j'ai trouvé cet acte de cet aïeul africain. Donc, j'étais dans un état de transe totale, comme on peut l'être quand on trouve des archives qui nous semblent très intéressantes. Et j'ai tout de suite pris en photo l'acte et transmis à une de mes informatrices qui est engagée dans des recherches généalogiques dans cette famille. Donc, du coup, ça l'a beaucoup intéressée. Du coup, j'ai amené la photographie de l'archive. Et cet aïeux qui racontait, enfin qui lui dans son discours dit que son aïeux a donné, enfin on lui a donné ce terrain, j'ai refait des terrains après, il n'a pas du tout, cette information ne l'a pas du tout intéressé en fait, et il a continué son récit même des mois après. Ça n'a pas du tout modifié son récit, ce qui est intéressant vraiment en soi. Et ça a plutôt intéressé ceux qui étaient dans une quête de connaissance de généalogie de leur famille et d'histoire de vie. Mais ça m'a vraiment fait prendre conscience aussi des différents questionnements, en fait. Parce que je pense que, par exemple, alors moi, j'étais un peu sur ces deux casquettes sur ce terrain, et je pense que c'est aussi pour ça que parfois, c'était un peu pas forcément très aisé pour moi. Enfin, dans mes questionnements, c'est-à-dire que, parce qu'une fois dans une fête de famille où se répétait que le terrain lui a été donné, ça a été plus fort que moi, c'était dans une petite table, j'étais avec deux personnes, j'ai dit « Ah non, non, mais j'ai trouvé l'archive, et en fait, il l'a acheté, il l'a acheté sur 10 ans, il a réussi à avoir un crédit, enfin, parce que, voilà, je trouvais que c'est pas rien d'acheter un terrain à la fin du 19e pour un immigrant africain, il achète, il a un crédit sur 10 ans. Enfin, bon, voilà. Donc, quand je raconte ça aux anthropologues, ils sont complètement… Enfin, c'est vraiment la chose à ne pas faire, c'est-à-dire d'intervenir sur le discours, parce que ce n'est pas, du coup, la question de la véracité des faits, de dire non, non, mais il l'a acheté. C'est bien ce qui est intéressant, c'est de… Enfin, en tout cas, si c'est notre question, c'est de s'interroger pourquoi dans, le récit s'est construit sur le fait qu'on a donné ce terrain et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour que dans les mémoires, ça soit resté, ça soit ça qui a été transmis. Mais moi aussi, dans mon positionnement d'historienne qui essaye de travailler sur l'insertion et sur cette méthode-là, c'est très significatif qu'il ait acheté un terrain, en fait, parce que ça veut dire énormément de choses sur son parcours de vie, sur ce qu'il a pu accumuler comme capital, sur ce que ça veut dire la dette, sur ce que… Enfin, voilà. Donc, là, on voit vraiment bien qu'il y a différents questionnements qui ne sont pas du tout les mêmes et qui que je devais juxtaposer deux casquettes, en fait, qui n'étaient pas toujours évidentes. Alors, venons-en maintenant, je vais regarder le temps, ça va, j'ai encore un peu de temps, à l'effacement de cette expérience de langagisme dans les récits. De fait, à la suite de toutes mes enquêtes, j'ai constaté que l'expérience de langagisme de ces travailleurs immigrants africains a comme disparu, ou en tout cas s'est effacée des mémoires familiales. Mes interlocuteurs, en fait, associent langagisme aux travailleurs arrivés d'Inde après l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire durant la seconde moitié du XIXe siècle, et à leurs descendants, ce qu'ils sont appelés les Indo-Martiniquais. Alors, je précise ici que le terme engagisme n'est jamais employé par mes interlocuteurs, ni par d'ailleurs la population en général, ni le terme d'immigration réglementée, qui était en fait le terme employé au XIXe siècle par l'administration coloniale, ne l'est pas non plus. En fait, il n'y a pas vraiment de terme précis qui définissent ces migrations, mais mes informateurs parlent, alors en pensant aux travailleurs indiens, ils parlent de travailleurs et travailleuses amenés par, je cite, les béquets, donc entendre les anciens propriétaires d'esclaves, pour remplacer justement leurs esclaves sur les habitations sucrières après l'abolition. Alors ils sont perçus en général comme de nouveaux esclaves qui n'en ont plus le nom, mais bien les conditions de vie et de travail. Et il est généralement souligné leur situation de forte dépendance à leur employeur, dépendance parfois perçue comme une allégeance au béquet et qui contribue à construire des représentations faisant de ces primo-migrants indiens et de leurs descendants des traîtres, voire des casseurs de grève. Cette formulation, en quelque sorte, de langagisme n'est pas le seul fait de mes interlocuteurs, mais c'est un peu ce qu'on retrouve dans ce qu'on pourrait appeler la mémoire collective. Ainsi, tout travailleur étranger, dans le sens extérieur à la colonie, arrivé après l'abolition de 1848 pour travailler dans les champs de canne, dans un rapport de forte dépendance à l'employeur, est-il un, je cite, « indien ». Et la majorité de mes interlocuteurs ne savaient pas que des personnes originaires du continent africain étaient aussi arrivées après l'abolition, et de surcroît dans le même cadre législatif que les Indiens. Il n'y a pas de connaissance en fait, d'un langagisme africain. J'ai pu faire le même constat en dehors de ces 10 descendants au sein d'un plus large public. Toute immigration en fait, de personnes venant du continent africain avant le XXe siècle a, pour la très grande majorité des personnes interrogées, eu pour cadre la traite et l'esclavage. Et l'idée de cette phrase, je cite, « Je pensais que tous les Africains arrivés ici étaient des esclaves », d'une de mes interlocutrices et partagée en fait par l'ensemble de mes informateurs. Ainsi, les mémoires de cet engagisme africain ou de cette immigration africaine post-esclavagiste ont-elles été recouvertes soit par celle de l'esclavage ou par celle de l'immigration indienne? Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Tout d'abord, il y a des caractéristiques bien distinctes de ces deux courants migratoires. L'engagisme africain a conduit, comme je vous le disais, 10 552 personnes, l'engagisme indien plus de 25 000, mais surtout les engagés africains arrivent en fait dans un temps très court, pendant 5 ans, comme je vous le disais, entre 1857 et 1862, alors que les indiens, eux, arrivent tout au long du 19e siècle, de 1853 à 1883 pour la Martinique, et ainsi ces nouveaux arrivants indiens amènent pendant plus de 30 ans leur culture au pluriel et renouvelle et ou revivifie les cultures indiennes de ceux installés de plus longue date. Alors, outre le fait qu'ils arrivent dans un temps court, les Africains sont très jeunes. En effet, la très grande majorité en fait, de ces immigrants africains sont plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui des adolescents, puisqu'ils ont, ou des pré-ados, ils ont entre 12 et 18 ans. Et ils intègrent et en fait adoptent rapidement les codes socio-culturels de la Martinique. Et une fois qu'ils sont en Martinique, ils ne reçoivent plus, après ces 5 ans, l'arrivée de personnes qui pourraient, enfin, de leur culture. Et du fait de la spécificité de cette migration, que j'évoquerai dans très peu de temps, ils n'ont pas d'échange en fait, et de communication avec leur pays d'origine, et ce qui ne va pas être le cas des travailleurs indiens. Par ailleurs, l'hétérogénéité culturelle et phénotypique des Africains est moins forte que celle des Indiens, bien qu'il ne faille pas en fait, négliger leur particularité, car plusieurs sources du XIXe siècle montrent bien que ces personnes sont identifiées et distinguées de la population, des ex-esclaves par ces derniers, mais aussi par les employeurs et les autorités coloniales. Pour autant, on trouve des registres d'habitation de la fin du XIXe siècle, au sein duquel ne sont plus distingués que les Indiens. Les Africains sont comptabilisés avec les travailleurs créoles. Il n'y a plus de catégorie en fait, particulière pour les Africains, ce qui est le cas dans la décennie post-esclavagiste. Mais en fait, 20 ans plus tard, il n'y a plus cette catégorie africain dans ces registres, alors qu'il va y avoir encore une catégorie indien. Et en effet, dès les débuts des années 1880, les engagés africains ne travaillent plus en fait, dans le cadre de l'engagisme, alors que des convois d'engagés indiens arrivent encore. Et à mon avis, c'est ce qui explique aussi que c'est seulement sur les Indiens que pèsent ces représentations de casseurs de grève à la fin du 19e siècle. En fait, la visibilité de l'engagisme indien est plus forte, plus longtemps, et c'est l'engagisme le plus proche du temps présent. Et comme je l'ai évoqué plus avant, tant au niveau de la mémoire collective que familiale, la connaissance historique de l'engagisme africain semble très approximative et souvent inexistante. Souvent, ce sont ceux qui m'ont dit qu'ils découvraient cette histoire après une conférence. Et ceci peut s'expliquer aussi par le fait que l'on était, pour reprendre une phrase du texte du programme dans lequel on était avec Christine, Alter, en marge des historiographies et des dispositifs autorisés. Ce sujet a en effet peu fait l'objet de travaux scientifiques ou même d'investigations de passionnés. Ce pan de l'histoire n'est pas enseigné, a été très peu médiatisé jusqu'il y a peu de temps. Et les choses changent. Pour preuve, j'ai trouvé que dans le guide touristique Hachette pour la Martinique, évoque maintenant dans sa partie historique cette migration africaine post-esclavagiste en même temps qu'elle évoque celle des Indiens. Alors, ironie de l'histoire et ou de la mémoire. En fait, les mémoires familiales qui associent en fait, africains, traite et esclavage sont de fait proches de la réalité historique et de l'expérience vécue par leurs aïeux. De fait, cet engagisme africain est fort spécifique et bien différent de celui des Indiens. À l'exception de 285 personnes qui étaient de statut libre au moment du recrutement en Afrique, toutes sont recrutées avec la méthode dite du rachat préalable de captifs, c'est-à-dire 97% de cet ensemble d'immigrants africains. Alors, par ce procédé du rachat, en fait, les recruteurs français achètent des personnes captives et ou esclaves en Afrique pour leur imposer un contrat d'engagement de travail de 10 ans à effectuer outre-Atlantique, donc ici en Martinique, contrat sur lequel c'est maintenant engagé, figure en tant que, je cite, « noir libre ». Pour autant, il s'agit bien d'une migration et d'une mise en engagement forcée et d'une traite de captifs déguisés. En termes d'expérience, ces rachetés ont une expérience de déportation similaire à celle de ceux arrivés avant, pendant la traite légale ou la traite illégale, et l'esclavage. Mais cet engagisme africain par rachat, s'il constitue bien une traite d'êtres humains, il n'y a pas d'esclavage à l'arrivée, mais le système ultra contraignant et disciplinaire qu'est l'engagisme, que je ne vais pas détailler ici. Et ce système, en fait, place ces engagés dans une extrême dépendance, tant vis-à-vis de l'administration coloniale que de leurs employeurs, principalement les anciens propriétaires d'esclaves. Difficile ainsi de faire la différence entre l'avant et l'après-esclavage et entre Africains esclaves et Africains libres de la période post-esclavagiste. Ils étaient juridiquement libres, mais loin de l'être dans les faits et dans la pratique. Soulignons que même à l'époque, la similitude des deux systèmes, esclavagisme et engagisme, est parfois dénoncée. Je vois que le temps file, donc je vais raccourcir un peu, mais on pourra en reparler dans la discussion. En fait, des sources, il y a seuls les membres de l'État qui se refusent, tout au moins dans les correspondances officielles, à toute association entre engagés africains et esclaves, sauf quelques lapsus révélateurs de l'artifice de la liberté qu'on trouve bien dans les archives écrites. Ainsi, les mémoires, en mettant cette immigration post-esclavagistes du côté de la traite et de l'esclavage ont-elles retenu non pas le discours officiel de l'époque, faisant de celle-ci, je cite, une œuvre civilisatrice, abolitionniste et émancipatrice, fin de citation, mais bien la réalité de ce système et des pratiques vécues. Cela fait écho à plusieurs situations rapportées où, dans les mémoires, ce n'est pas tant la date officielle d'abolition de l'esclavage qui a été retenue, mais le moment où des lois ou autres rendaient la situation concrète des individus plus égalitaire et où il y avait un accès réel aux droits. En termes, quand le contenu des principes de l'abolition s'incarne dans les pratiques. Donc, je vais couper un peu mon texte parce que je vois que j'ai normalement écoulé mon temps. Alors, pour finir, si je n'ai pas, si en effet dans ces mémoires je n'ai pas trouvé l'expérience de l'engagisme, l'expérience de l'engagisme s'est effacée dans mon panel de famille au moment où je les rencontre. Par contre, nombreux sont les individus qui savent avoir dans leur généalogie, un aïeux africain, un Africain comme ils disent généralement, mais sans autre connaissance du système migratoire par lequel il est venu et de l'engagisme, du contrat d'engagement et du statut particulier de ces immigrants. Alors, qu'est-ce que cela signifie savoir que l'on a un aïeux africain, puisqu'aujourd'hui, bon, les Martiniquais ayant un phénotype se rapprochant de près ou de loin de phénotypes de population africaine, savent que dans leur ascendance, il y a eu une ou plusieurs personnes originaires du continent africain. Mais avoir connaissance d'un aïeux africain signifie qu'ils savent que tel aïeux précisément, qui est bien identifié dans les mémoires, dont ils connaissent le nom et sa descendance, est arrivé d'Afrique où il est né et que cette arrivée n'était pas très tardive. Cette personne identifiée dont on sait certaines choses, dont on a certains éléments, dont celui qu'il était né en Afrique, et cet élément en fait est resté, il est connu comme l'Africain de la famille. Des fois, il y en a plusieurs aussi. Comme me le disait un de mes informateurs que je questionnais sur le terme Congo, qui est le terme en fait générique par lequel ces immigrants africains, sauf que les gens ne pensaient pas immigrants africains, étaient appelés. Il me disait, quand je l'interrogeais sur ce terme, je cite, « Ce sont les dernières arrivées d'Afrique ». Voilà, et je m'arrêterai là. Alors, j'ai coupé mon texte, mais on pourra, dans la discussion, dire plusieurs choses. Je ne voulais pas trop déborder sur mon temps. Voilà, je vous remercie.
Bien, merci à toi, Céline, pour cette... oui, cette introduction fouillée et fournie sur cet aspect qu'effectivement on connaît peu, mis à part le cercle de spécialistes. Donc, ce que je propose maintenant, c'est de faire notre discussion générale. On n'a pas pu poser des questions à la suite de chaque intervention puisqu'on avait prévu plutôt une discussion à bâton rompu. Avec tous les intervenants de la matinée, les membres du groupe, du moins ceux que je vois à l'écran. Bon, eh bien, ce que je propose peut-être, c'est de donner la parole à ceux qui souhaitent vous commenter, poser des questions, mettre en rapport avec notre thème général, des figures visibles, invisibles, l'archive, la trace. Donc, ceux qui veulent intervenir, peut-être Didier, voilà, je vous donne la parole et puis j'interviendrai après pour aussi commenter.
Je peux prendre la parole ? J'avais des questions.
Bien sûr, vas-y Céline, bien sûr.
J'avais des questions pour Ferdinand Dejon. Sur la question de la photographie, en fait, il me semble que les Mourides portent... Enfin, une des spécificités, c'est qu'ils portent des photos de leur marabout autour du cou. Donc, il y a quelque chose avec l'image qui est très signifiant pour eux. Et du coup, je me demandais si ça jouait dans la polémique autour de cette photo. Enfin, et leur rapport particulier justement à la représentation de leur marabout. Est-ce que justement le fait que là il y a une photo qui apparaisse, est-ce que ça, comment ça peut venir dans la réflexion et je me demandais aussi quels étaient aujourd'hui les enjeux en fait autour de l'existence de cette deuxième photo. Alors j'ai bien compris la question autour de l'autorisation d'Amadou Bamba qui aurait donné qu'une autorisation et pas deux, et c'est une façon de mettre en avant sa capacité d'agir par rapport au pouvoir colonial. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres enjeux aujourd'hui qui pourraient expliquer en fait, pourquoi l'apparition de cette seconde photographie de lui soit aussi, enfin, déclenche autant de polémiques? Ça, c'est deux questions différentes un peu par rapport à l'iconographie pour les mourides. Est-ce que ça a un lien? Et du coup, je me demandais aussi. Alors là, bon, c'est une question plus historique. Si on mène une enquête historique sur cette carte postale, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux sur la carte postale coloniale, où elles sont effectuées, et en général, il y a vraiment un choix qui est fait de choisir certains types de photos pour en faire des cartes postales. Et là, du coup, c'est le retour d'un des exils. Il a eu beaucoup d'exils. Est-ce que à ce moment-là, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être pas votre sujet, mais du coup, je me demandais quels sont les enjeux pour le coup en 1902 pour le pouvoir colonial de choisir de faire une carte postale avec une photo, si c'est bien une, si c'est une vraie photo et pas un montage en fait, mais de son retour d'exil, est-ce que c'est un moment où pour le pouvoir colonial c'est important de montrer que ils sont plus souples et ils le laissent rentrer au Sénégal, enfin. Voilà, je me disais qu'il y avait quelque chose aussi à mener du côté du contexte en 1902 et de ce retour d'exil. En fait, s'ils en font une carte postale, c'est qu'il y a, enfin, c'est pas, enfin, voilà, c'est qu'il y a, c'est un choix politique. Et à qui elle est destinée? Est-ce qu'elle est destinée à un public sénégalais ou est-ce qu'elle est destinée à un public métropolitain? Donc voilà, quels sont en fait les, mais bon, ça c'est plus dans un questionnement. Historique sur la fabrication de cette image à ce moment-là, quoi.
Merci Céline pour ces questions. Il y a plusieurs questions et j'ai pas beaucoup de réponses. Mais j'y vais essayer. D'abord, pour la question historique, je ne sais pas si l'État colonial a vraiment été intervenu pour propager, disons, sa politique changée par rapport au marabout. Parce que si la photo a été prise par Edmond Fortier, c'était quand même un photographe privé. Et je ne pense pas que l'État colonial aurait pu intervenir dans des décisions sur quelle photo aurait sélectionné pour en faire des cartes postales. Donc là, je pense que peut-être il y a pas eu des intérêts qui ont convergé. En plus, je ne sais pas si j'ai donné l'impression que la carte postale en fait représente Cheikh Amadou Bamba. Parce qu'en fait, je pense que non, il représente pas le cher. Oui. Et donc que les Mourides qui ont nié l'identification du cher, qu'ils ont raison évidemment. J'ai beaucoup aimé la comparaison ou bien la notion que les Mourides portent des photos autour de cou. Et ces photos sont en fait des photos coloniales. Oui, c'est tout à fait clair pour Cheikh Amadou Bamba et pour Cheikh Ibrahim. C'est des photos coloniales qui portent. Et donc, il y a, je pense, une certaine paradoxe dans cette appropriation des photos dont on réclame que, bon, que le cheikh a donné sa mais dont on doit quand même avouer que c'est les colons qui ont pris ces photos. Et ça c'est une paradoxe ou bien une ambiguïté qu'on trouve souvent parmi les mourides, qui a quand même une quête de reconnaissance vis-à-vis d'autres, c'est-à-dire vis-à-vis d'autres confréries musulmanes qui sont plus prestigieux, mais aussi vis-à-vis les Européens. Il y a toujours, et donc, le fait de sélectionner ces photos coloniales pour s'en identifier avec est en fait aussi une reconnaissance, je pense, on cherche à avoir de la part des colons une reconnaissance de l'importance historique de leur chef religieux. Je pense que je m'arrête ici.
Je peux intervenir? Vous m'entendez?
Oui, bien sûr, Paola. Bonjour,
Oui,
Paola.
bonjour à tous et merci. Merci beaucoup pour ce moment précieux. Alors, moi, je suis interpellée par la présentation de Céline Fleury, cette contribution qui est pour moi très intéressante parce que lors de mes recherches autour des anciennes matrones et accoucheuses empiriques, qui ont largement participé à la création de cet univers symbolique qui entoure la naissance et la petite enfance. J'ai rencontré une matrone Congo, Florencia, qui habitait dans le quartier de Sainte-Marie qui s'appelle Citron. En effet, ces archives oraux, qui sont très peu connues, nous permettent de reconstruire des histoires de vie qui sont d'une richesse incroyable. Et ce qui m'interroge par rapport à votre recherche historique, c'est ce qui concerne la désignation de ces Congos qui, en effet, parfois sont conscients de cette appartenance, même en absence d'une recherche généalogique. Florencia, justement, s'est désignée comme Congo-Noué. Elle disait, elle dit que le médecin qui est en relation avec elle la désigne comme Congo-Noué. Elle dit, il te crié moins Congoa. Il m'appelait, le docteur m'appelait Congo. Congo, ça qui arrivait où? Qu'est-ce qu'il t'arrive, Congo? Donc, est-ce qu'il y avait une désignation qui était propre à tous les Congos? Cette désignation détermine, après les représentations qui sont liées à ces Congos, qui certes ne sont pas assimilés comme les Indiens à des traîtres, mais quand même qui doivent se défendre de cette assignation qui est courante? Florencia arrive à trouver une place parce qu'elle est guérisseuse et qu'elle est reconnue comme capable de cette médiation entre deux mondes. Et donc, elle trouve une place, elle arrive à dépasser cette assignation et aussi, quelque part, à se sortir de cette misère à laquelle elle est assimilée. Parce que quand elle définit le travail des Indiens, des Africains engagés, elle dit le travail dans la banane est le plus dur qu'il y a sur la terre. Un régime de banane pesait 20 kilos. Ces malheureux ne gagnaient que 800 francs par mois. On a fait la grève, mais le petit n'a pas raison devant le puissant. Donc, Rave pas ni raison devant poule. On n'avait pas les droits de tomber malade. Ah, bon Dieu! L'homme malheureux, c'est triste. La plus mauvaise richesse est d'être malheureux. Je l'ai reproché au bon Dieu. Donc, je cite le discours de Florencia parce qu'en effet, cette conscience d'une appartenance émerge de façon très claire des archives, des archives orales et que cette oralité, justement, Céline Fleury est vraiment, vous avez fait un travail incroyable parce qu'il y a très peu de travaux sur ces sujets et il mérite d'être vraiment porté à la lumière et même continué. Donc la question est, vous avez recueilli des données sur la désignation des Congos, désignation qui vient des autres, aux désignations qui est spontanée de la part des Congos, même, j'insiste, en absence d'une recherche généalogique qui relate la conscience d'une appartenance.
Oui, je vous remercie pour cette question. En fait, il y en a plusieurs. Alors, déjà, je pense que moi, dans mon corpus, comme je vous ai présenté, il y a un biais. Comme je vous le disais, moi, je suis Les gens, je les ai beaucoup rencontrés parce qu'ils sont venus en fait à des conférences. Donc, c'était des gens, beaucoup, comme je vous disais, qui faisaient des recherches généalogiques. Et en fait, contrairement à la personne dont vous parlez, c'est plutôt des personnes qui ne savaient pas, qui savaient, il n'y avait pas eu de transmission, dont, genre, ils sont Congo, et qui ont fait des recherches généalogiques et qui tombent sur l'état civil, sur ce terme d'immigrant avec un numéro de matricule. Et tout d'un coup, ils se disent, mais immigrant africain, pourquoi il y a écrit immigrant, qu'est-ce que c'est? Et qui, du coup, vont aller chercher autour de ce terme. Alors que la famille dont je vous ai parlé, il y avait cet aïeux que certains avaient rencontré, mais qui était comme l'Africain de la famille. Mais dans la tête des gens, c'était il est arrivé avec la traite et l'esclavage. Et n'était pas forcément un Congo, du coup. Donc du coup, c'est aussi ce biais-là. Moi, j'ai plutôt rencontré des gens qui savaient a priori pas trop, et c'est par des recherches ou par des événements de la vie qu'ils ont découvert cette histoire-là et la spécificité, si on peut dire, de ces aïeux-là, en tout cas de leur histoire et de cette migration post-esclavagiste. Donc voilà, c'est un peu différent. Et je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes, en tout cas c'est en train de changer parce qu'il y a, voilà, parce que l'histoire de cette immigration africaine, elle est de plus en plus connue, qu'il commence à y avoir des conférences où on parle de Congo. Je parle pour la Martinique, la Guadeloupe, c'est différent parce qu'il y a une famille identifiée comme Congo depuis très longtemps, qui fait une cérémonie religieuse et tout. Donc là, je parle vraiment pour la Martinique. Mais du coup, il y a aussi ces personnes. Alors, enfin, c'est pas du tout un hasard qu'elle soit guérisseuse et la médiation entre deux mondes, parce que déjà au 19e, enfin, il y avait quelque chose qui construit alors autour de l'Africain, on va dire, donc pas forcément de l'engager. Moi, je distingue les deux choses, où ce seraient des gens qui seraient en effet, qui auraient une connaissance, en tout cas une proximité avec un savoir, avec l'au-delà. Souvent, j'ai trouvé des procès, ils sont accusés de sorcellerie. Voilà, ça leur est souvent attribué en fait. En même temps, on y va, on est fasciné, et en même temps, ils font peur. Enfin, il y a cette ambivalence en fait. Et par rapport à la désignation du terme Congo, alors là, je vous réponds par rapport à un terme historique dans les sources, surtout, ça, je peux vous le dire. Enfin, j'ai vu jusqu'au début du XXe siècle. En effet, on trouve le terme Congo, en fait, il est employé pour les désigner. Je le trouve dans les rapports des commissaires de l'immigration, donc le rapport voilà, d'administration coloniale, quelques mois après l'arrivée des premiers contingents qu'on voit. Alors, Congo, ça signifie pas du tout. Enfin, ils viennent, en effet, ils partent, ils sont achetés sur la rive droite du fleuve Congo. Donc, sur les bateaux, il y a écrit, même dans la presse, vous prenez les journaux de l'époque, il y a écrit l'arrivée de 500 immigrants venant du Congo. Mais en fait, ils sont absolument pas, faut pas entendre le terme Congo, en tout cas, comme ils viennent du pays Congo, qui n'existe, enfin, il y a un royaume Congo, mais en fait, le royaume Congo, c'est plutôt les gens qui les ont vendus aux Français. Ils sont pas originaires de là, ils viennent de 300 à 400 km dans l'intérieur des terres. Mais en tout cas, donc, ils sont pas du tout Congo en Afrique, comme ils sont pas africains en Afrique, mais ils le deviennent. En fait, en Martinique, là, il y a ce terme qui va leur être collé. D'ailleurs, il y en a qui sont recrutés au Gabon. On va pas les appeler Gabonais, ils sont pris dans cet ensemble Congo. Donc, il y a un terme. Je trouve qu'il est aussi. Alors, je le trouve pour la première fois dans ces rapports. Après, dans la population, on le trouve dans des chansons. Donc, c'est des chansons du fin 19e, début 20e siècle, où en effet, c'est des chansons qui sont stigmatisantes. Donc, en fait, le terme va avoir, comme le terme coolie pour les Indiens, a une charge négative, en tout cas pour nombre d'entre eux. Et en gros, Congo, c'est un peu enfin, avec les chansons, c'est un peu celui qui est, on dirait, pour reprendre un terme de l'Hexagone, le plouc, c'est-à-dire celui qui marche pieds nus, qui n'a pas de chaussures, qui parle pas bien le français, qui parle le créole encore avec enfin, comme on dit, un gros accent, mais qui parle très mal le français, qui a pas les codes en fait de la bourgeoisie en fait martiniquaise, qui est un peu le paysan et voilà, et qui a pas de sous, qui est un peu pauvre. Et il y a des anecdotes, il y a aussi des histoires où on dit il y a une histoire il y a une dame qui est en train de faire une crème fouettée. Enfin non, qui fait sa lessive, il y a de la mousse, et en fait il y a un Congo qui passe par là, et en fait il mange la mousse parce qu'il croit que c'est un gâteau. Donc et du coup c'est l'idée aussi qu'ils sont un peu bêtes. Il y a toutes ces affiliations derrière ce terme. Moi j'ai interviewé des vieilles personnes et je leur disais, mais alors je posais toujours des questions sur ce terme Congo, et là tout de suite elles me disaient, ah, non, non, mais il faut pas dire ça. Enfin, c'est pas bien. Les jeunes, pas du tout. Il y a aussi des mouvements aujourd'hui, ils sont hyper contents de trouver dans leur généalogie un Congo parce qu'ils sont plus dans un mouvement afrocentriste ou panafricaniste. Enfin, voilà, donc ça dépend de ce que chacun met là-dedans. Mais en tout cas, pour les vieilles personnes qui ont encore le souvenir d'une stigmatisation à l'école, il y a aussi l'idée que les Congos sont très noirs de peau. Donc, ça renvoie à toute la racialisation avec l'épiderme qui est encore... Alors, ce n'était pas... pour reprendre les faits d'historienne, qu'en fait, ils n'étaient pas forcément très foncés de peau parce qu'on a des descriptions d'eux. Et ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est resté, voilà, ça s'est traduit comme ça. Et du coup, j'ai aussi trouvé ce que ce terme a été, j'ai trouvé un procès où la personne est une immigrante africaine, accusée d'ailleurs d'empoisonnement et tout ça, et elle parle d'une sorte de plusieurs personnes qui sont immigrants africains, qu'elle a à moitié empoisonnées, enfin bon, il y a toute une histoire, et elle parle d'elle en disant « nous les Congos ». Donc on sent que le terme a aussi été repris par les individus eux-mêmes. Voilà, dans quelle mesure, après, ça je ne suis pas en mesure de vous le dire, moi je trouve, voilà, j'ai trouvé des études en archives qui datent du procès de 1867, voilà, où on sent que les gens se définissent comme ça. Dans l'insurrection du Sud, je fais ça, en fait, je vise Christine, mais dans les archives, on va trouver le terme Congo. On dit qu'il y a des Congos qui ont eu leur case incendiée, ou on dit qu'il y a des Congos qui ont participé de l'autre côté, enfin, à l'insurrection. Donc, c'est un terme qu'on retrouve à la fois dans les archives qui, semble-t-il, a été aussi est utilisé par les gens pour les désigner. Mais si vous voulez, aujourd'hui, il y a plein de gens qui se... C'est pour ça que j'ai dit, quand je parle de descendance, ce n'est pas un groupe social existant. Il n'y a pas aujourd'hui un mouvement qui dit « nous, on est des Congos », comme par exemple, aujourd'hui, les gens se disent « indo-martiniquais », alors qu'il y a plein de gens aussi qui sont indo-martiniquais, mais qui ne vont pas le revendiquer, mais qui se définissent comme ça et qui s'inscrivent comme ça. Ce n'est pas encore le cas, ça va peut-être le devenir, mais pour l'instant, ce n'est pas encore une catégorie sociale qui apporte quelque chose aujourd'hui dans la scène qui réclame quelque chose ou une reconnaissance particulière, en fait.
Céline, je vais me permettre de oui. t'interrompre pour laisser la possibilité de notre temps.
Oui, pardon.
Et on pourra revenir si, ne t'inquiète pas, on pourra revenir. Voilà, si, mais c'est pour distribuer la parole. S'il n'y a personne, on te la redonne tout de suite. Hein. Donc, je vois un petit doigt se lever. Donc, Didier, vas-y, on t'écoute.
Alors, oui, j'avais une question un peu pour les trois intervenants. La question pour chacun des trois, c'est, bon, elle est très classique, hein, c'est que faites-vous des feedbacks de vos recherches hein, auprès des enquêtés, auprès d'un public plus large? On a eu des éléments là, de réponse, mais est-ce que vous les intégrez dans vos recherches au fur et à mesure en les cumulant? Est-ce que vous vous en protégez? Voilà, donc ça, c'est la première question un peu générale. La deuxième pour Philippe Artière, c'est en fait, en vous écoutant, j'ai regardé autrement en fait les termes que vous avez employés pour parler de votre travail. Donc, vous avez par exemple parlé de campagne quand je me lance. Voilà. Alors, je me suis dit, parce que je n'avais jamais pensé à la chose comme ça, campagne, c'est le vocabulaire militaire, hein, une campagne, et c'est aussi archéologique, hein, la fouille. Voilà. Donc, est-ce que c'est un peu pertinent si on... Bon, c'est un peu jouer sur les mots. Hein. Et encore, pour jouer sur les mots, dépouiller. Vous êtes revenu sur ce terme-là. Effectivement, on l'utilise souvent... Il y a un impensé peut-être derrière. Hein. Alors, dépouillé, j'ai un peu regardé tout à l'heure sur le Larousse. Donc, c'est polysémique, bien sûr. Hein. Donc, ça renvoie à la cuisine, ça renvoie aussi au vocabulaire de la rue, se faire dépouiller. Hein. Donc, or, justement, hein, toutes ces marges, tout ça, ça vous intéresse bien. Donc, voilà. Donc, une question un peu générale pour tout le monde. Et puis, des questions un petit peu sur les mots hein, pour que... Qu'est-ce que vous en pensiez, et puis qu'on réfléchisse un peu collectivement, parce qu'il y a des choses intéressantes derrière, me semble-t-il.
Je me permets juste de dire, de compléter par le terme de dépouillement, m'a aussi beaucoup, pose question, mais il m'a semblé qu'il n'y avait pas cette idée de dépouiller au sens de mettre à nu quelqu'un. C'est aussi un acte violent d'aller dépouiller et donc Voilà, il me semblait que dans la déclinaison, on n'avait pas cette perspective de qui est autorisé à dépouiller et pourquoi, et est-ce que ce n'est pas redoubler la violence. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est de répondre à la question générale l'un après l'autre. Donc, Ferdinand, on va te donner la parole pour répondre à cette question du retour, de la restitution. Est-ce qu'il y a des retours qui te font intégrer dans tes recherches et voir d'autres perspectives?
Oui, je voudrais bien répondre, mais restitution de quoi exactement?
De retour? De retour de
ma question, c'était comment est-ce que vos enquêtés ils voient votre travail, enfin, qu'est-ce qu'ils en perçoivent, qu'est-ce qu'ils vous communiquent, et est-ce que vous tenez compte en fait de ce qu'on vous dit sur votre travail, d'interrogation autour de cette figure, sa représentation, l'appropriation de documents coloniaux. Voilà, est-ce que vous en faites quelque chose dans votre travail?
Ouf. J'ai travaillé depuis quelques temps sur ce sujet des photos et plus récemment j'ai travaillé avec un collègue sénégalais qui n'est pas encore embauché par l'université, donc il est très jeune. Et je me demandais si peut-être il fallait travailler avec lui et co-écrire l'article pour m'en assurer que les débats que j'engage et les réponses qu'on donne soient peut-être plus acceptables que dans les cas où moi-même je ferais peut-être le même argument. Donc ça c'est peut-être une pensée assez opportuniste sur la question de retour de ce savoir qu'on est en train d'écrire. Il faut que j'avoue que j'ai un peu peur parce que quand le marchand français a offert ces images à Bifaus, sont venus visiter son magasin et ils ont questionné son droit de vendre ces photos. Donc la question est vraiment très politisée, surtout pour les Bifal qui pensent que leur chef est mal représenté dans tout cela. Je crains vraiment la lecture des mourides de ce que je vais écrire. Donc la question de retour est très complexe et je ne suis pas encore arrivé à une solution. Merci.
C'est intéressant, si je peux me permettre, Didier, ce que tu dis, parce que travailler sur le vivant, entre guillemets, nous amène à des postures éthiques qu'on ne peut pas éviter. On ne peut absolument pas éviter cette question de comment tu le dis de manière extrêmement franche, ta crainte de savoir comment tes écrits vont être reçus. Et dans des situations comme les nôtres, qui travaillons quand même à la base d'une relation de dissymétrie coloniale, dont il ne faut pas se voiler la face, cette crainte, moi je pense qu'elle est absolument nécessaire et qu'elle doit être sans arrêt l'obligation de se mettre en danger en montrant notre travail. Ça me paraît être la condition essentielle à notre pratique. Elle n'est pas toujours faite, loin de là, Et c'est vrai qu'elle elle amène ce que tu dis être une crainte et qui fait partie intégrante de l'expérience de l'anthropologue. Voilà. On va peut-être donner à Céline la parole pour répondre sur les retours.
Les retours, moi, ce travail-là, il n'est pas encore publié. Donc, je n'ai pas des retours. Mais après, moi, je reste en contact en fait avec les plusieurs avec toutes les familles, la majorité des gens avec qui que j'ai rencontré, et en fait pour eux je pense qu'ils y voient aussi une opportunité que je continue leur recherche en fait, parce que quand je trouve des nouveaux documents, là ça m'est arrivé d'ailleurs il y a 15 jours, j'ai trouvé un acte d'un monsieur avec qui je travaille sur son aïeux, je leur envoie les informations en fait. Donc, c'est une correspondance. En fait, moi, j'ai arrêté de... Enfin, le programme s'est fini fin 2018. Donc, je n'ai pas fait de nouveaux terrains depuis ce temps-là. Et j'ai une sorte de correspondance qui n'est pas... c'est peut-être une fois tous les 5-6 mois. Mais je reste en contact, en fait, avec eux. Et j'ai l'impression qu'ils perçoivent un peu mon travail. Ils savent que si je vais trouver des choses sur leur famille, je vais leur envoyer les informations. Mais après, comme je le disais, moi, je n'ai pas encore publié mon travail là-dessus. Après, très honnêtement, c'est pas des gens qui lisent les articles scientifiques, donc moi je leur enverrai l'article et ils en connaissent le contenu, parce que enfin, en plus j'ai fait rencontrer certaines personnes, enfin bon bref, c'est une autre histoire un peu trop longue, mais donc voilà, les feedbacks en fait c'est plutôt une sorte de comme je disais, il y a une sorte de lien qui s'est fait de recherche un peu commune, enfin là c'est plus moi qui la continue, et aussitôt que je trouve des choses qui peuvent les intéresser, je leur envoie et je tiens un lien comme ça. Enfin, voilà, donc c'est comme ça. Si je n'arrive pas à finir la relation.
C'est une manière de restituer. Tu as fait des réunions, si je me souviens bien, tu as fait des réunions, tu as exposé tes travaux. Donc, ce que je voudrais rajouter peut-être par rapport à la situation que doit rencontrer Ferdinand, c'est qu'en ce moment, et Magali, tu pourras en témoigner, en ce moment aux Antilles, il y a un dénouement. Il y a un dénouement dû à cette explosion mémorielle des années, fin des années 90, etc., qui rend cette crainte de l'intervention en milieu avec l'anthropologie, l'histoire mêlée à l'anthropologie, qui rend cette rencontre plus facile. Et qui rend cette rencontre presque une connivence, pour peu que la rencontre se produise vraiment, entre l'anthropologue et les interlocuteurs. Il y a une demande extrêmement forte, et du coup, c'est ce que racontait Céline, ce travail qui devient commun. Moi, je me souviens avoir intitulé un chapitre « Une drôle de recherche, tous chercheurs », parce qu'on se retrouvait tous à faire ensemble cette quête qui, du coup, diminue énormément la distance entre la posture dite scientifique-académique et la position de nos interlocuteurs. J'espère que, donc, dans le cas de Céline, je crois que ça se fait de fait bien avant que tu aies produit ton article, ton livre. Philippe, oui?
Oui, peut-être une réponse qui est un peu différente de celle de Ferdinand et Céline. D'abord, probablement parce que d'emblée, en travaillant sur, il y a maintenant 20, plus de 30 ans, sur des autobiographies de criminels, sur un de ces cahiers, je rappelais souvent, il y avait inscrit ne peut pas être lu par des non-docteurs en médecine, et que moi je n'avais eu aucun problème à ouvrir le cahier. Et dans le livre des vies coupables, j'avais écrit immédiatement, affirmant, d'ailleurs je me souviens de la réaction d'un certain nombre de collègues, l'historien est un voleur, donc, et un voleur de vie, Et ça, c'est pour, d'une certaine manière, aussi ne pas se leurrer sur la violence de la discipline historique. Moi, je ne crois pas, je crois à des formes de coproduction, mais je ne crois pas, je ne crois pas que l'histoire n'est pas une science violente. L'histoire est une science violente parce que, de même que l'archivistique est une science aussi violente et qu'elle exclut, elle rejette, et que pour répondre de manière un peu constructive, effectivement sur ces termes de campagne, il y a ces deux dimensions. Il y a évidemment la dimension archéologique, hein, c'est-à-dire la fouille, au fond une campagne de fouille. Ça veut dire aussi une inscription temporelle. Ça veut dire aussi qu'on fait une campagne en telle année dans les archives. Comme on fait une campagne, on sait que les campagnes de fouilles, ce sont des successions de campagnes, hein, de fouilles. Et puis, évidemment, militaire, au sens où peut-être je suis d'une génération qui pour travailler sur des archives, se déplaçait, ne pouvait en rapporter que ses propres notes. Donc, une appropriation très violente, une extraction finalement, je dirais même, enfin, j'avais dans un texte, je me permets de le signaler, où il s'agit bien en fait de découper dans l'archive, de découper dans… Alors évidemment, aujourd'hui, les choses sont un peu différentes et vous l'avez signalé les uns et les autres avec des pratiques photographiques. On photographie les archives et on les fait circuler. Il n'empêche que les archives, et moi je suis absolument opposé à la notion du singulier de l'archive, il n'y a pas l'archive, mais les archives. Et justement, parce que l'archive, la notion d'archive enlève, efface aussi cette dimension de l'institution, l'institutionnalisation, enfin l'institution des archives, hein, comme aurait dit Daniel Fabre, et donc cette dimension autoritaire. Et en outre, et c'est bien ce que j'ai essayé de poser un peu cette communication qui était une commande, hein, c'était aussi de se poser cette question de la profanation. J'ai parlé d'appropriation, mais pour l'historien, c'est au fond quand même ouvrir les tombes. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a profané un dossier ? Parce que les archives, comme vous le savez, elles ne sont pas reclassées, hein. Les archives, elles sont conservées telles que le producteur les a constituées, archives privées comme archives publiques. De cette profanation, pour reprendre les termes de Michel de Certeau, et c'est un peu votre question au fond, qu'est-ce que vous faites, c'est la question de Didier si j'ai bien compris, c'est au fond quel retour vous faites. Alors faire un retour quand on travaille sur le 19e siècle vers les morts, c'est compliqué. Vers les vivants, ça peut créer parfois des malentendus, mais que j'ai assumé dans l'idée que les archives n'existent que lorsqu'elles sont partagées et partageable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît essentiel dans nos domaines, et vous êtes, vous, au cœur, je crois, de ce partage, hein, partage des archives. Et moi, je ne conçois mon travail finalement que celui de quelqu'un qui profane et qui partage, recèle finalement, vole et recèle. Non pas pour de l'argent, même si symboliquement, il y a une valorisation, évidemment, mais les partager. Alors là, se pose la question de comment on partage. On a parlé des différents supports du partage. Et puis, on verra ce soir, d'autres moments, qu'il n'y a pas… alors, il y a l'écrit, qui est notre outil, mais qui est aussi un acte très autoritaire, hein, et voilà, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a aussi d'autres formes, des formes qui sont celles de, bon, moi, avec d'autres, hein, je pense à Nora et d'autres ici, qu'on expérimente, celles de l'exposition. Pour moi, ça ne participe pas, encore une fois, de ce qu'on appelle le retour ou le livrable ou le je ne sais quoi de ces programmes de recherche de merde. Mais c'est véritablement un travail de recherche que de partager l'archive, une forme d'édition de l'archive dans l'espace public. Et en tant que chercheur financé et salarié de l'État français, eh bien, je considère que ça fait partie du travail de recherche que de penser cette autre écriture de l'histoire. Et donc, partager, voler, receler, partager, exposer, voilà, je dirais en deux mots, avec tout ce que ça peut avoir créé comme malentendu. Je me souviens très bien.
Philippe, on vous a perdu là, le micro, on ne vous entend plus au moment où vous disiez que vous vous souveniez très bien.
De Troyes, ou dans les... le fin fond des archives Zola concernant l'inversion du sang génital à la fin du 19e siècle et des autobiographies d'invertis. Bon. Et avec toute la difficulté de faire comprendre et de laisser entendre aussi que ce n'était pas une exposition forcément qui, comment dire, qui s'inscrit, enfin qui était une, comment dire, qui relevait d'une archive LGBT, mais qui probablement constituait, et d'ailleurs c'était très intéressant à mon sens que ce soit dans une mairie, dans la mairie du 4e, parce que c'était aussi... faire se croiser un certain nombre d'histoires. Et peut-être que dans votre question, pour moi, une des choses qui est importante, c'est le partage, mais c'est aussi la production du commun, la production d'un commun. Voilà. Mais c'est évidemment des intuitions, des réflexions qui sont en cours, qui ne sont pas évidentes. Là, je travaille sur un schizophrène rapatrié d'Algérie en 1963. Vous imaginez combien se croisent des mémoires absolument conflictuelles et comment produire du commun autour de ça ne va pas être très simple.
Moi, je vous remercie. Je prends la parole, je me donne la parole juste pour un triple, peut-être un triple commentaire. Moi, je vous remercie vraiment d'avoir eu le courage de nous dire que la pratique était violente. On ne le dit pas assez. Nos pratiques sont violentes. Alors, sur le terrain de l'anthropologie, elles le sont d'une manière différente, plutôt ambivalente. Dans la mesure où il y a cette... Alors, ce n'est pas sous forme de livrable, hein, ce n'est pas ces affaires de livrable qui sont dans la pratique anthropologique, c'est celles de qu'on appellerait restitution, qui sont un petit peu le gage que se donne l'anthropologue d'être acceptable dans sa démarche éthiquement, mais c'est souvent un leurre. Et là, je renvoie au très bon travail de Christian Gassarian sur l'anthropologie réflexive, etc., où il ne faut pas non plus se faire des illusions sur cette notion de restitution. Mais je suis vraiment très sensible au fait que vous puissiez dire que c'est violent, que vous êtes un voleur, que nous sommes des voleurs, et nous, on se pose encore plus sur le terrain du colonialisme et des pays colonisés, cette reproduction par notre pratique même de cette fameuse relation de dissymétrie coloniale. Et justement, moi, ce qui m'a... hier, j'ai relu ce fameux chapitre-là de la plage noire, et j'ai vu une petite citation de Foucault, et moi, c'est sur ça que j'aurais aimé vous entendre, et après je poserai une question à Ferdinand et Céline, dans Foucault qui dit, alors je crois que c'est dans, c'est dans Dit et écrit, je crois que c'est dans La vie des hommes infâmes, des vies singulières devenues par je ne sais quel hasard d'étranges poèmes. Voilà ce que j'ai voulu rassembler en une sorte d'herbier. Et là, j'ai ressenti de la violence. Je me suis dit, mais des vies torturées, dont moi j'ai eu affaire à des vies torturées en tant qu'anthropologue et auxquelles j'ai voulu échapper en termes d'intrusion. Je me suis refusée à aller plus loin, mais parce que j'avais devant moi les personnes torturées dont je n'avais pas envie de faire un scoop journalistique. Et là, je me dis, quand on a affaire à l'archive, on peut presque se permettre ça. Et j'ai été un peu choquée par le fait qu'on puisse considérer l'aspect poétique de la torture, du corps torturé, du corps blessé au très profond de lui-même, et en faire une sorte d'herbier. Les termes m'ont choquée. Et je les ai mis en parallèle avec ceux de Glissant, qui me paraissent d'une pudeur et d'une décence quand il parle de cet homme sur la plage. Il dit « Il marche, remontant sur ses reins la ceinture d'une culotte qui l'enroule à mesure que son corps maigrit. Je renonce à le décrire, trouvant inconvenant d'avoir à mettre en scène une telle dérive si implacable. » Et je me dis, on a là deux manières, peut-être qui sont en dialogue sur bien d'autres choses, mais est-ce que Foucault n'a pas été dans une posture du dépouillement, justement au sens de mettre à nu, et que renvoie Glissant avec son opacité, comme quoi elle a, en réclamant ce droit à l'opacité. Pour Ferdinand, je donne les pipes, et après, voilà, je vous donne la parole, Philippe. Juste pour Ferdinand, je voulais dire combien c'était important de pouvoir imaginer ce que tu as dit, une décolonisation avant même que nous ayons accès à des choses, à des éléments, parce qu'il y a une décolonisation de choses que l'on croit être coloniales et frappées par le sceau de la colonialité, et qu'un travail a été fait très souvent pour décoloniser. Là, je prends juste un seul exemple. Par exemple, le patronyme dont Céline a un petit peu parlé en disant qu'on donnait des surnoms. Ce patronyme a été vu en Martinique et notamment par Glissant comme le signe de l'aliénation totale, puisque l'on n'a pas le droit de se nommer soi-même, mais c'est le colon qui nous nomme. Or, le patronyme, et c'est là que je ne te rejoindrai pas tout à fait, si l'on donne des surnoms, c'est parce que l'on garde pour soi son vrai nom. Et son vrai nom, c'est celui de l'état civil, parce que c'est avec lui que l'on peut pénétrer dans la société coloniale, s'approprier certaines choses de la société coloniale pour mieux la détourner, et notamment le foncier, acheter des terres sous son vrai nom et se constituer quelque chose d'inviolable par rapport au droit colonial, et qui fait que l'on va cacher son vrai nom pour qu'il ne soit pas l'objet d'appropriation de type magique, etc., et d'où le surnom. Mais voilà, donc je voulais dire combien il est important de penser à des décolonisations de logique coloniale, donc... voilà. Et pour toi, Céline, moi, je trouve extrêmement intéressant l'anachronisme. Et l'anachronisme nous dit mieux que l'archive ce qu'est peut-être la réalité de l'événement. Et que les interlocuteurs, tes interlocuteurs, te parlent de l'esclavage, oui, c'est peut-être la meilleure preuve. Là, je repense à cette idée de mémoire comme matrice de l'histoire et comme... quelque chose qui porte en soi le qui du quoi passé, cet engagisme a été vécu comme un esclavage, et d'où cette absence de dissociation entre l'esclave dit Congo, équivalent du Bossal pendant la période esclavagiste, le terme Congo apparaissant plus tardivement, mais représentant le Bossal, c'est-à-dire celui qui n'est pas né, qui n'est pas créole, et tu le dis toi-même. Donc tout ça me paraît extrêmement intéressant en termes de que signifie l'anachronisme, si ce n'est la preuve, entre guillemets, avec 10 000 guillemets, de ce qui a existé, du qui, du quoi, de celui qui a vécu l'expérience à l'intérieur de la matrice même de l'événement. Voilà. Philippe, vous vouliez répondre ?
Oui, très rapidement. Effectivement, on a deux positions, on va dire, différentes entre Foucault et Glissant. Et je voudrais insister, je répondrai seulement sur Foucault, un moment aussi dans l'histoire du rapport aux archives. La vie des hommes infâmes, hein, c'est publié en 77, il est fort probable que ce texte faisant suite, par ailleurs, à une très longue fréquentation de ces archives depuis la thèse de Foucault la fin des années 50, quand il travaille sur les archives de la Bastille, qu'il met de côté, il met de côté ces ensembles. Ce passage par ce que vous avez appelé à juste titre, je pense, une poétique des archives, permet sans doute pour Foucault d'être un levier politique très fort. Et il me semble que ça rejoint quelque chose que vous avez les uns et les autres un peu dit, en tout cas Christine dans votre introduction, d'une poétique politique, d'une poétique qui permet justement d'entendre à un moment donné ces voix. Et je crois que pour Foucault, et il le dit très bien dans le texte, dans l'introduction à un texte antérieur, donc pas antérieur à 60.
Texte antérieur à. On vous a perdu de nouveau, Philippe.
La vie des hommes infâmes, qui est celui du mémoire de Pierre Rivière. Et dans son introduction en 73, il dit très clairement, il affirme très clairement et non sans, enfin, et sans phare cette question de la beauté du parricide aux yeux roux. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans la position dans laquelle était Foucault à ce moment-là, en 73, donc quand même qui est une position centrale d'autorité, il va imposer avec Le désordre des familles et Arlette Farge en 82 la publication à Pierre Nora de ce qui est pour Pierre Nora quelque chose qu'il ne veut pas. Il veut un texte de Michel Foucault. Et il aura Le désordre des familles. Hein, et ça, c'est très important. Il faut se souvenir aussi du passage à apostrophe de Foucault quand, au lieu de parler de la volonté de savoir, il parle de l'affaire Stern et l'antisémitisme en Union soviétique et de ce médecin qui a été stigmatisé et condamné. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que et c'est pas une défense de Foucault, c'est plutôt d'essayer d'historiciser ça. Et de même, on peut aussi historiciser le discours d'Arlette Farge sur les archives. Le goût de l'archive est un texte qui paraît en 89. Encore une fois, moi je le dis toujours, c'est un texte qui paraît au moment du bicentenaire et qui dit quelque chose aussi sur ce dont on ne parle pas. Et à travers une forme de poétique. Et le texte, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr qu'il corresponde aujourd'hui, le goût de l'archive, à une réalité de notre rapport aux archives. Vous en êtes, enfin, il me semble qu'il ne résiste pas forcément à une lecture postcoloniale. Mais là n'est pas la question. Enfin, là n'est pas la question. Encore une fois, si on n'historicise pas nos propres savoirs, alors on avance, on n'avancera pas. On n'avance pas, en tout cas, Donc, effectivement, une mise à nu, mais une mise à nu par Foucault qui est comme celle de Damien à l'ouverture de Surveiller Punir, c'est-à-dire cette archive, une archive du pouvoir, hein, il prend une archive du pouvoir pour justement creuser à l'intérieur de cette archive, dans un moment où, encore une fois, l'histoire des prisons, l'histoire et l'histoire de la justice est balbutiante. Donc c'est peut-être aussi ça qu'il y a. Quant à Glissant,
on vous avait perdu, Philippe, avec Quant à Glissant.
Oui, mais je vais vous laisser avec Quant à Glissant.
D'accord. Bon, Ferdinand.
Oui, merci. Bon, pour l'appropriation de l'archive, je suis tout à fait d'accord avec toi, Christine, que oui, c'est un travail peut-être sans fin. C'est bien vrai qu'il y a eu la violence peut-être dans la fondation de l'archive, et que dire que l'appropriation aussi se fait par la violence, évidemment. Et bien que Philippe nous dise qu'il faut partager l'archive, je trouve que l'archive n'est pas aussi facilement partagée. Si je peux vous montrer une autre photo qui a été...
Bien sûr.
Bon, ça, c'est une photo qui a été trouvée cette année. Et que, d'après moi, c'est en fait une photo de Cyrine Amadou Bamba. Qui a été offert par le site web de Delcamp, maison de vente aux enchères. Et c'était offert pendant le Ramadan. Donc, pendant tout le Ramadan, il y a eu des programmes de radio, de télévision sur la question est-ce que c'est une photo de Bamba. Et je pense bien que c'est vraiment une photo de Bamba. Mais sur l'Internet, il y a eu beaucoup d'interventions des mourides qui ont réclamé qu'en fait, les Blancs, ils cherchent qu'à s'enrichir avec leurs photos. Il faut pas laisser faire avec. Donc il y a cette contestation autour de la propriété de l'archive, et je pense vraiment pas que ça soit facilement, c'est une question facilement soluble, parce qu'il y a ces appropriations sont assez violentes et ils visent pas toujours à arriver à une compréhension partagée. Merci.
Céline?
Je vais voir si je peux m'en sortir.
Voilà, bravo.
Oui, non, je voulais peut-être rebondir sur ce que tu as dit, parce que je ne crois pas que je ne sais pas si j'ai bien compris, Christine, mais... Quand tu dis que ce qui est signifiant avec l'anachronisme, donc l'anachronisme, qu'en fait dans les mémoires, ce qui est resté dans les mémoires, ça correspond à une réalité des pratiques de fait de langagisme africain, et que ça dit quelque chose en fait de l'expérience de ces engagés africains et qui se vivaient comme des esclaves. Mais en fait, je ne suis pas sûre, en fait. Je pense que cet anachronisme, en fait, il est un peu, il est aussi surtout lié au fait qu'il y a une représentation, tout ce qui est lié, enfin, africain égale esclave, en fait, égale traite. Et c'est un peu, enfin, je ne sais pas, et je ne suis pas, enfin, et je ne suis pas du tout sûre qu'en fait, les engagés se sont vécus comme des esclaves. Même mes recherches actuelles montrent que, enfin, déjà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en fait, que se vivre comme un esclave. Et quand on, là, je travaille sur la Guyane en ce moment et je fais vraiment une prosopographie, une biographie collective des plus de 1800 engagés qui sont arrivés. Et quand vraiment on travaille sur leur, à essayer de reconstituer leur vie et ce qu'ils font, je ne suis pas du tout sûre que certes, ils sont placés dans des conditions de domination extrêmement fortes et dans un système très contraignant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se vivaient comme des esclaves et pas du tout. Et enfin, du coup, je pense pas. Je pense que les mémoires en gardant ça et justement, enfin, de dire que c'était des esclaves et que l'engagisme c'était de l'esclavage, c'est vraiment réduire la richesse de leur expérience, de leur vécu et aussi que l'engagement...
Céline, c'est eux qui le disent, c'est pas moi qui le dis. C'est pas, ça me fait penser au même anachronisme, des descendants d'insurgés de 1870 qui plaçaient la révolte dans l'esclavage. Pour eux, leurs aïeux se sont battus pour l'abolition. Or, il y avait 22 ans qui séparaient de l'acte d'abolition. Et en y réfléchissant... à l'époque, bon, tu le sais, hein, sous le Second Régime, toutes les mesures répressives qui ont fait que même Schœlcher parlait de quasi-retour à l'esclavage. Et chez les Congos, dans les scènes que j'ai pu voir reconstituées, entre guillemets, hein, tout ça, les Congos étaient bien en deçà des ouvriers qui étaient des anciens esclaves casés. Qui était resté sur les plantations. Donc, je me dis l'anachronisme, entre guillemets, le fait qu'il puisse parler de cette condition en tant qu'esclave n'est peut-être pas anodine.
Non, bien sûr, je suis sur les conditions, tu vois, les conditions, la politique, mais après, justement, essayer de trouver l'expérience des gens et leur voix, il faut faire attention à ne pas leur coller des étiquettes de c'était, ils se vivaient comme des esclaves ou des subalternes. Tu vois, il y a un travail en ce moment qui est fait justement une thèse sur les gens casés. Et qui montre que dans les relations de travail, même pour les gens casés qui ont cette représentation comme les engagés d'être vraiment les dernières roues du carrosse des travailleurs post-esclavagistes, et qui négocient leurs contrats, et que dans une relation avec leur employeur, notamment du fait que leurs aïeux étaient esclaves sur ces habitations et d'une longue histoire, ils négocient les conditions de leur travail. Okay.
Alors, non, mais là, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on a là vraiment deux perspectives qui sont sans doute pas incompatibles, mais comment on arrive à voir une domination extrême et totale et faire ressortir une figure résistante. On a là, bon, alors moi, je me dis, voilà, il faut nous faire avec les deux, hélas, c'est... la condition post-esclavagiste est, à certains égards, et beaucoup plus, de manière beaucoup plus massive qu'on ne le pense, la reconduction pendant de longues années des conditions du système esclavagiste, jusqu'à pouvoir appeler maître certaines personnes pendant très longtemps qui ne sont plus des maîtres, et tu l'as cité l'exemple toi-même. Mais je crois qu'on va s'écarter, là, c'est notre petit débat entre spécialistes.
Est-ce que c'est important aussi d'avoir à l'esprit, parce qu'on parle de nos positionnements et tout, que aussi de poser en a priori sur ces gens-là avec plein de bonnes intentions que c'est des subalternes, ça justement si on essaye de retrouver leur voix et tout, ça les écrase aussi un peu et que c'est et que
oui, et en même temps on ne peut pas ignorer la puissance des processus de domination. C'est ce que je veux te dire, il faut tenir les deux en même temps. Je n'arrête pas de dire à mes étudiants, il faut des doubles lunettes. Il y a la force des processus de domination et qui sont retraduits par, si on te parle de Congo et d'esclavage et de traite, comment tenir compte de cette parole si on veut faire interférer, qu'on va leur ramener dessus une machine encore plus puissante de domination, on oublie que eux sont dépositaires d'une expérience qui parle de cette domination. Tu vois, c'est ce que je, juste ce que je veux dire. C'est que nos présupposés, nos partis pris, par moments, peuvent nous amener à réduire, amenuiser, affaiblir la puissance extrêmement dominatrice et d'une violence extrême qui a été le système de plantation.
Mais je pense qu'il ne faut pas oublier la force des individus à se départir de ces
systèmes. Il faut faire avec les deux, c'est ce que je te dis, il faut faire avec les deux. Ouais.
Est-ce que je peux intervenir entre vous deux? Paola, ouais. Voilà, mais justement, moi je pense qu'il y a un juste milieu, il y a peut-être une nuance à apporter à toute cette question de la violence de la science archivistique. Parce que je pense que la science archivistique et tous les travaux de chercheurs, des scientifiques, peut se libérer de cette violence lorsqu'elle se double de la participation active de ces informateurs qui peuvent avoir accès par leurs paroles et notamment par leur corps à ce grand débat. Je veux dire qu'il faudrait peut-être que cette science, que ces archives se doublent des traces. Ça veut dire de toutes les images, des films, de la photo, des vidéos, d'une participation de ces corps qui peuvent avoir accès par leurs propres paroles, dans le sens que quand nous, on a un débat ici, ils ne sont pas présents. Bon, je cite, parce que c'est peut-être le seul moyen d'expliquer ça. Alors, la participation de la matrone et de toute sa famille à ma soutenance des thèses, lorsque il décide de se présenter, mais la famille est tendue à la soutenance, dans une demande, dans une quête de visibilité, d'accès à l'espace du scientifique, là où la parole du scientifique légitime leur présence, leur donne la possibilité de sortir de cette assimilation à la misère, lorsqu'il les permet de sortir de la honte et surtout de l'invisibilité. Alors, c'est pour ça, peut-être, que je me tourne de plus en plus vers le monde de l'art et la façon dont, effectivement, les archives peuvent être construites autrement par les recours à l'image. Je pense justement que lorsque l'archive écrite se double de ces archives orales dont elle a parlé Céline Flory, et donc de cette immersion dans le quotidien où l'histoire est en devenir et où il y a une revendication de plus en plus forte d'appartenance, là je pense qu'on peut voir que ces engagés qui ne sont pas des esclaves, mais qui ont quand même vécu comme des esclaves, ont quand même envie de se reconnaître autrement, comme vous dites bien, Céline, et d'appartenir autrement à cette Afrique. Mais cette appartenance et cette revendication peuvent faire l'objet seulement d'une performance de dignité, ça veut dire d'un corps qui s'affirme comme tel, qui revendique son appartenance, qui revendique une généalogie, et non de famille, un patronyme qu'elle peut finalement retrouver parce qu'il y a des documents pour. Et donc, je pense que les archives peuvent sortir de cette violence de l'acte archivistique lorsque la restitution implique la participation de celui qui raconte lui-même son histoire, de celui qui participe à son récit. Sans cet accès direct, l'archive va continuer à nous appartenir et à être le domaine du scientifique. Donc, pour moi, la question est celle du lien. Donc, peut-être les liens avec justement l'archive et la trace, parce que la trace est physique. La trace est l'homme et cet informateur que nous côtoyons, dont nous ramenons l'existence, les récits d'une vie incroyable. Mais voilà, ce récit ne peut être que les siens. Donc, je pense que la restitution doit impliquer nécessairement sa présence et donc que l'élément filmique, l'image, peut effectivement sortir l'archive de cette violence qui est propre à l'histoire, à l'anthropologie, à toute discipline du savoir qui nous amène à interpréter. Voilà.
Très bien, Paola.
Christine, il est 13h15. On a dépassé d'un quart d'heure et on reprend à 14h30. Donc, à mon avis, il faudra arrêter et on reprendra en fait la conversation autour des interventions de l'après-midi.
D'accord.